Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du débat des grandes voix. Gérard Carrérou est absent ce matin, on le salue. Ils sont donc trois cette semaine autour de moi dans ce studio. Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Cette question ce matin au programme, sur quel pied danse Emmanuel Macron ? Le droit, via Gérard Darmanin, qui débat avec Marine Le Pen à la télévision.
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là.
Voilà pour la jambe droite, et en même temps, Emmanuel Macron soigne sa gauche.
Aujourd'hui, quand on regarde les choses, cet ascenseur social dont vous avez parlé, il fonctionne moins bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
Meilleur accès à l'ENA pour les jeunes défavorisés, une plateforme anti-discrimination, une loi climat, jambe gauche, jambe droite. Nous verrons si le « en même temps » peut toujours faire recette. Emmanuel Macron qui a pris son risque en décidant de ne pas reconfiner, les chiffres lui donnent raison pour le moment. Mais comme l'a dit Gabriel Attal sur Europe 1, rien n'est exclu.
Il faut tout faire pour éviter un reconfinement, mais évidemment, si nous considérons que c'est nécessaire pour protéger l'hôpital, protéger la santé des Français, nous prendrons toujours nos responsabilités.
Et puis avec vous les grandes voix, d'ici 11h, deux autres débats. D'abord, la ville de Trappes est-elle menacée par les salafistes ?
Je constate que les maghrébins athées et les musulmans modérés sont en train de quitter la ville.
Un prof de philo alarmiste est menacé. Le préfet qui l'accuse de mettre l'huile sur le feu. La polémique enfle enfin. Le procès en destitution de Donald Trump. Image choc, mauvais calcul des démocrates. Vous nous donnerez votre avis. Vous avez le programme. Le débat des grandes voix, c'est parti. C'est un paradoxe. Personne ou presque ne veut d'un nouveau duel Macron-Le Pen en 2022. 70% des Français, en tout cas, en croire un sondage IFOP paru cette semaine dans le Figaro. Et pourtant, 67% jugent ce duel inéluctable. Le Pen-Macron en débat à la télé, c'est pas encore pour tout de suite. Mais jeudi soir, on a eu un avant-goût. Catherine Ney, la jambe droite d'Emmanuel Macron était sur France 2, celle de Gérald Darmanin, face à Marine Le Pen. Le ministre de l'Intérieur était offensif, on l'a entendu. Est-ce que c'était la bonne stratégie ?
En tous les cas, la stratégie de Marine Le Pen, c'était de montrer qu'il fallait effacer le souvenir de son débat raté avec Emmanuel Macron et elle voulait montrer sa crédibilité. Alors, quand elle a reconnu qu'elle avait raté son débat, mais elle disait qu'elle avait été trop offensive, qu'elle avait été trop virulente et que c'est ça qui avait raté. Donc là, elle a adopté une technique, une stratégie totalement différente, en se remontant presque amicale avec Gérald Darmanin pour lui dire « Mais votre livre, je l'ai lu, j'aurais pu l'écrire. » Et elle le brandissait avec... Il était hérissé de post-it, montrant qu'elle l'avait bien lu. Et puis elle lui disait « Voilà, vous avez raison, mais seulement je ne retrouve pas votre livre dans la loi. Donc la loi, j'en ai fait une pour moi. » Mais elle a reconnu aussi qu'elle avait déjà voté plusieurs articles de cette loi. Alors, c'est ça le problème. Donc, ou elle vote toute la loi ou pas. Alors, elle dit que ça dépendra de l'article 21 et tout ça. Bon,
et donc, pour vous, elle a réussi à effacer son débat raté de 2017 ?
Non, pas du tout, parce qu'on attendait d'elle qu'elle soit quand même. C'est son sujet de prédilection. C'est parler de l'islamisme, de l'immigration, c'est l'héritage paternel et c'est son morceau de bravoure. Et il a été étonnant quand même qu'elle ne sache pas par cœur les chiffres de l'immigration, qu'elle se trompe, qu'elle dise qu'elle pourrait, si elle était élue comme ça, chasser les immigrés, qu'elle enverrait son ministre de l'Intérieur dire au pays, reprenez-les, comme si on claquait des doigts et tout ça. Et donc, moi, je trouve qu'elle est apparue comme hésitante, approximative.
Et Gérald Darmanin lui a fait d'ailleurs remarquer qu'elle était approximative, parfois de façon condescendante. Oui. D'ailleurs, c'était peut-être une erreur, Michel Cotta.
Une erreur, chacun ne se refait pas, il est comme ça Darmanin, mais il devra sûrement lutter contre cette tendance à considérer que les autres sont tous moins intelligents que lui. Ceci étant, je trouve que ça a très bien commencé par Darmanin, et finalement moins bien fini dès le moment où Marine Le Pen est arrivée sur son terrain, le terrain préparé par son père, le terrain sur lequel elle est le plus convaincante, c'est-à-dire l'immigration. Et je pense que elle a rendu, Catherine parlait du livre de Darmanin, mais je crois qu'elle a rendu un très mauvais service à Darmanin en lisant tout haut. Je l'ai lu le livre aussi, effectivement, très peu de choses séparent ce que pense Darmanin, de ce que pense Marine Le Pen. Mais cette façon qu'elle a eue de lire le livre de Darmanin en disant « nous sommes d'accord, mais vous, vous n'allez pas assez loin », était quand même assez destructeur, j'ai trouvé, pour Darmanin.
Alors, très peu de choses séparent ce que pense Gérald Darmanin de Marine Le Pen, vous dites, Michel Cotta. Charles Villeneuve,
est-ce que c'est juste... qu'elle disait.
Alors, est-ce que ce n'est pas un problème, justement, Charles Villeneuve ? On a vu, au sein même de la majorité, et bien sûr à gauche, des voix s'élever pour dire « ouïe, aïe, aïe ». Mettre en avant les choses qui nous rapprochent de Marine Le Pen plutôt que les divergences, c'est un danger.
Oui, d'abord Marine Le Pen d'agressive, à force d'être moins agressive, elle est devenue inoffensive durant ce débat. Moi, je trouve, en tout cas. Vous parliez de la condescendance. C'est toujours une erreur d'être condescendant, parce qu'elle mène facilement à l'arrogance. Et ce qui est une forme de mépris qui peut renverser la perception du public. Ça, c'est important. Rappelez-vous d'ailleurs le fameux débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, lorsque Valéry Giscard d'Estaing demande à Mitterrand « Est-ce que vous connaissez le cours du Deutschmark ?» Et François Mitterrand lui répond « Je ne suis pas votre élève, je suis votre contradicteur. » Et pour moi, ça a renversé le débat. Bon. Alors, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, moi je pense que justement cette absence d'agressivité de Mme Le Pen a grisé, en quelque sorte, le ministre de l'Intérieur. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu, comme vous le disiez, un peu condescendant.
Bon. Il l'a reconnu lui-même, d'ailleurs.
Il l'a reconnu lui-même, et c'est une erreur. Alors, ça trouble la jambe gauche de la majorité, c'est ce que vous demandez. Mm-hmm. Bon, moi je crois que ça la trouble fortement, parce qu'ils s'aperçoivent de toute façon que là, le ministre de l'Intérieur était en mission pour justement conforter la loi, si vous voulez, ce qu'on a reproché, justement, sur le plan régalien au président de la République, c'est-à-dire un manque d'énergie sur le plan sécuritaire. Et là, de toute façon, le ministre de l'Intérieur a fait quand même son travail. Et il a embarqué aussi Mme Le Pen sur un débat parlementaire. C'était plus un débat national, à un moment donné, c'était le décortiquage de la loi texte par texte.
Il l'appelait d'ailleurs régulièrement Madame la députée.
Voilà, il a ramené Marine Le Pen à son statut de simple députée. Ça aussi, c'est de la condescendance.
Est-ce que vous ne croyez pas que, comme l'écrit ce matin dans le Figaro Guillaume Tabar, que c'est le baiser de Judas de Marine Le Pen à Emmanuel Macron, finalement en étant un peu plus molle, entre guillemets, que Gérald Darmanin, et de se dire que finalement les électeurs de gauche d'Emmanuel Macron ne se déplaceront pas en cas de duel Le Pen-Macron en 2022 au deuxième tour?
Oui, on peut toujours tout dire. Il y a plusieurs interprétations et plusieurs interprétations que donneront les Français et qui expliqueront leur attitude. Mais moi, je ne vois pas de baiser de Judas dans cette opposition. Je ne vois pas du tout. Et je vois bien que il faut bien à un moment donné que Emmanuel Macron se préoccupe en effet des problèmes régaliens. Il s'en est occupé in extremis le 2 octobre dernier, juste avant l'assassinat de Samuel Paty. Mais on voit bien que dans toutes les discussions qu'il a avec son ministre de l'Intérieur, qu'il protège, avec qui il est très proche, sauf quand il critique certaines de ses formules. Mais donc, tout ce qu'il veut avec le ministre de l'Intérieur, c'est que le ministre incarne effectivement sa droite, mais pas trop.
Et est-ce que pas vous trop. Savez si, justement, Emmanuel Macron a félicité Gérald Darmanin, comme l'écrivent nos confrères du Parisien ce matin, prestation, quand on a entendu Gabriel Attal, ici, sur Europe 1, dire qu'en revanche, il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé
Catherine Ney. Moi, je crois qu'un ministre qui traite la présidente du parti de molle et de branlante, franchement, un ministre ne devrait pas parler comme ça. Moi, je crois que c'est contre-productif. Alors qu'il l'ait félicité. Moi, je crois qu'il l'a fait en même temps. Je pense qu'il a dû le féliciter et lui dire qu'il n'aurait pas dû le dire. Parce que
c'est un péché de jeunesse.
Ben oui, mais il est plutôt jeune maintenant. Quand même.
Alors, en même temps, on continue à en parler dans un instant, ce duel à distance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui semble avoir commencé. Et en même temps, donc, Emmanuel Macron qui soigne sa gauche. Est-ce que ça peut toujours fonctionner? On en parle juste après cette première pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
Le débat des grandes voix jusqu'à 11h avec Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Sur quelle jambe danse Emmanuel Macron ? C'est le thème de notre premier débat. La jambe droite, on l'a vu dans la première partie. Parlons à présent de sa jambe gauche. Trois temps forts cette semaine. La loi climat, la plateforme contre les discriminations. Et puis jeudi, ce déplacement à Nantes pour réparer l'ascenseur social qui est en panne, selon Emmanuel Macron. Tendez l'oreille.
La possibilité de ne pas être assigné à résidence, c'est-à-dire assigné au milieu social où on est né, à l'endroit où on est né, est très importante. On peut faire le choix d'y rester. Et il est tout à fait estimable, et si c'est un choix. Mais si on a envie d'en sortir et qu'on se dit simplement « ça n'est pas pour moi », parce qu'il en est, c'est déjà écrit, alors la République a un problème.
Emmanuel Macron était venu présenter un dispositif pour favoriser l'accès des plus défavorisés, justement, aux plus grandes écoles de l'ENA. Est-ce que l'ascenseur social est en panne ? Est-ce que la République a un problème ?
Si elle a un problème, c'est pas nouveau. Hein, parce que quand le président dit qu'un des problèmes, c'est la fragmentation installée dans certains territoires, quand on a une jeunesse qui, en fonction de l'endroit où elle habite, de la famille à laquelle elle appartient, au nom de qu'elle porte, c'est vrai à la fois pour les enfants d'origine musulmane, hein, et c'est vrai aussi pour beaucoup de jeunes Français, disons d'origine, qui ne peuvent pas faire les mêmes études que ceux qui habitent dans les villes, qui sont d'un milieu socialisé. Ça s'adresse à beaucoup de gens, beaucoup de monde, et ce n'est pas nouveau. Avec que le président ait l'intention d'y remédier, mais d'abord, ça va être long. Et puis, que propose-t-il ? Les intentions sont bonnes. Et puis, en plus, ce discours, on l'entend depuis très souvent.
Quoi. Alors, ce qu'il propose, ce n'est plus de supprimer l'ENA, comme il l'avait envisagé après la crise des Gilets jaunes, mais c'est d'avoir ce dispositif prépa-talent pour multiplier les chances d'accéder à l'ENA et à quatre autres grandes écoles. Est-ce que ce sont de bonnes propositions qui peuvent plaire à la partie gauche de son électorat ?
Moi, je trouve que ce sont de très bonnes propositions qui avaient été initiées, quand même, il faut le rappeler, il y a longtemps.
Par
Richard Decoing à Sciences Po. Oui. Mais pour avoir vécu cette période, en tout cas pour
bien
avoir vécu
avant.
La période où on a essayé de faire entrer des gens des ZEP dans Sciences Po, Richard Decoing s'est heurté à beaucoup de difficultés. D'abord, du côté de l'éducation nationale, je sais parce que je les ai vécues, puisque j'ai fait passer les premiers examens des élèves des ZEP. Mm-hmm. Donc beaucoup de difficultés du côté de l'éducation nationale. Et beaucoup de difficultés de la part des élèves de Sciences Po, qui disaient « Alors quoi ? On nous fait un Sciences Po au rabais ?» alors que les élèves, lorsqu'ils passaient leur concours, l'avaient préparé sans doute plus que d'autres, et donc étaient très très bons. Reste après le principe de l'intégration. Donc moi, je crois que c'est quand même quelque chose de très important, qui peut donner un sang nouveau. Alors, ça prendra du temps. Voilà. Catherine a raison. Mais ça peut donner un sang nouveau à ces grandes écoles, parce que c'est vrai qu'il n'est pas normal qu'à l'ENA, il y ait moins aujourd'hui de représentants de classes modestes, d'ouvriers, etc., qu'il y en avait il y a 10 ans. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me choque, moi.
Et donc là, il y aura 1000 places supplémentaires pour les prépas et une allocation doublée à 4000 euros.
Oui.
Charles Villeneuve.
Mais enfin, le problème, ce n'est pas l'ENA. Le problème, ce n'est pas l'ENA, c'est l'école publique. Ce sont les lycées qui préparent justement aux grandes écoles. Or, si vous voulez, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces établissements-là, qui mal placés dans des quartiers mal placés ou dans des zones mal placées, ne parviennent plus aussi bien qu'avant, qu'hier, à favoriser l'ascenseur social. C'est ça le problème, le vrai problème. L'ENA, c'est quoi ? C'est 80 énarques par an qui sortent. Et puis, il a renoncé à dissoudre l'ENA. Il a raison, dont il est issu d'ailleurs. Il a raison. Parce que c'est quand même une école d'excellence. Simplement, il ne s'agit pas de, en permanence, nommer plutôt des énarques que des gens de normal sup à des postes, si vous voulez, de la bureaucratie française, qui est déjà, si vous voulez, surmultipliée sur ce plan-là. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, la troisième voie, elle existe. C'est d'ailleurs un député communiste, Anicé Leport, qui a initié la troisième voie. Il y a deux concours à l'ENA. Il y a le concours externe et il y a le concours interne, ouvert aux fonctionnaires. Et puis, il y a la troisième voie. Alors, cette troisième voie, comme l'a dit d'ailleurs Michel
Cotta,
c'est vrai qu'elle est beaucoup plus difficile, si vous voulez, à utiliser qu'on ne le croit. Mais pour moi, si vous voulez, c'est une mesurette. La vraie mesure, c'est de voir et d'examiner comment on peut faire des lycées mal placé, ce que je dis mal placé, c'est-à-dire dans des territoires de la République où on conteste pas mal justement les valeurs de la République.
Mais pas seulement.
Des lycées.
Sur tout le territoire.
Des lycées qui redeviennent des lycées d'excellence, ce qu'a été l'éducation nationale française.
Mesurette, alors, dites-vous, Charles Villeneuve.
Pardon, on parlera un autre moment de la carte scolaire, parce que tant que la carte scolaire existe, telle qu'on met dans des quartiers ou dans des lycées qui sont moins bons que les autres, tout le monde sans discernement, qu'on ne choisit pas ceux qui sont les meilleurs pour les pousser, on n'arrivera pas à grand-chose, on est d'accord.
Bien sûr.
Il faut voir l'enthousiasme que mettent les jeunes gens des ZEP pour passer Sciences Po. Je peux vous dire qu'il leur faut du courage, qu'il leur faut du courage vis-à-vis de ceux qui les regardent à Mantes-la-Jolie ou à Garches,
mais aussi
et du courage
dans le 7e
par rapport au type qui les attend à Sciences Po.
Mesurette, vous disiez, Charles Villeneuve, est-ce que l'autre mesure présentée hier, même si Emmanuel Macron ne s'est pas présenté pour la développer, c'est cette lutte contre la discrimination hein, par Internet, par téléphone, une plateforme, des jurys spécialisés, la défenseur des droits qui est en première ligne, un budget de 3,5 millions d'euros. Est-ce que c'est une mesurette, un simple gadget ou non ?
Non, mais il faut voir. C'est très difficile de dire si là, par rapport à cette initiative, si c'est une mesurette ou pas. C'est une fabrique à contentieux, ça c'est sûr, de toute façon. Et ça va finir au tribunal, la plupart des plaintes. Et c'est après coup qu'on pourra juger de son efficacité. C'est difficile de dire aujourd'hui, finalement, c'est quand même une initiative intéressante. Simplement, il nous faudra du temps pour la juger.
Catherine Ney, la troisième mesure de la semaine plutôt à gauche, c'était cette loi climat présentée en Conseil des ministres. Le président de la République a retenu 146 mesures de la Convention citoyenne, partiellement en tout cas, 28 ont été écartées. Mais pour autant, il y a 110 associations qui disent « le compte n'y est pas ».
Mais ça, c'est toujours le même problème avec l'écologie. Vous savez que c'est une religion qui a ses grands prêtres et ses laïcs. Bon, ben pour les grands prêtres, c'est jamais assez. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une urgence parce qu'on dit la maison brûle, quoi. Et la maison brûle, voilà, drôlement. Alors, moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui doivent être votées et qui sont un mieux. Mais est-ce que c'est un pansement, un cautère sur une jambe de bois ? J'en sais rien. Mais et il y a les politiques qui disent, si on va trop vite aussi, ça peut créer des problèmes économiques et sociaux trop graves. Donc, il faut y aller mollo, vous voyez. Donc, et ça, depuis qu'on parle d'écologie, c'est exactement la même rupture qu'il y a entre les religieux et les laïcs.
D'un mot, Charles Villeneuve.
Oui, d'un mot, si vous voulez, parce que c'est une...
On va faire une pause, c'est pour ça.
Oui, enfin, mais ce nouveau clergé dont parle Catherine Ney, Emmanuel Macron ne peut pas le négliger. Parce que c'est un combat où il peut perdre pas mal de plumes, pas seulement des voix, mais aussi de sa crédibilité. Et il en a parfaitement conscience. Il n'a certainement pas oublié que le mouvement des Gilets jaunes a été lancé sur deux mesures, justement, carbone, la taxe carbone et la vitesse à 80 km à l'heure dans pas mal de territoires français, hein, qui était à l'initiative de cette mesure, c'était le Premier ministre, Édouard Philippe. Bon, et ça a provoqué pas mal de dégâts, d'où les manifs. D'ailleurs, ça a allumé le mouvement des Gilets jaunes. Et il s'en est souvenu. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, il est revenu sur 28 des propositions de la Convention citoyenne. Mais c'est lui qui a dit, qui s'est engagé, en disant que toutes les initiatives des 150 membres de la Convention citoyenne ne seraient pas filtrées et seraient appliquées. Or, il voit très bien que certaines des applications et des propositions provoqueront vraisemblablement pas mal de déficits, non seulement sur le plan des voix, mais sur le plan aussi de leur application.
On continue à parler de ce débat dans un instant. Michel Cotta, je vous assure, je vous donne la parole juste après cela, tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Et le débat des grandes voix avec Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta. Michel, je vous avais promis de vous redonner la parole sur la loi climat. Vous vouliez ajouter un mot à propos de ces associations qui dénoncent le fait que ça n'aille pas assez loin.
Non, je crois qu'on voit vraiment la difficulté d'Emmanuel Macron. Là, sur cette loi climat, personne n'est allé jamais aussi loin que le propose la loi, avec l'artificialisation des sols, la création d'un délit d'écocide. C'est pas rien. Donc personne n'est allé aussi loin. Personne n'est allé aussi loin, et pourtant il y a d'un côté les écologistes qui disent ah ben non, ça va pas assez loin, non, et puis certains économistes qui disent attention, si vous arrêtez là Si vous arrêtez l'économie en France avec vos décisions écologistes, c'est embêtant. Donc, il a donc une gauche et une droite, au fond, des adversaires des deux côtés. Mm-hmm. Et c'est la même chose sur la loi
séparatisme.
Il y a à côté des gens qui trouvent qu'il va trop loin, et de l'autre, des gens qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, qu'il n'en fait pas assez, qu'il faudrait mettre tout ça en prison, etc. Donc, il est quand même toujours sur une ligne de crête. Alors, c'est le principe du « en même temps ».
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Mais à un moment donné, il ne faut pas que le « en même temps » se transforme en grand écart.
Non, mais je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Alors, il joue gros sur la loi sur le séparatisme. Il joue gros sur, évidemment, la crise sanitaire. Il joue gros sur la loi sur l'écologie. Alors, il joue gros. Et alors, ce qui va être... Mais il a quand même encore entre 38 et 40% d'opinions positives.
Oui, il a
et
un surtout, socle solide.
Il a un socle solide, mais c'est vrai qu'il va être, mais comme l'a été, par exemple, Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, tous les candidats seront contre lui. Il sera criblé de flèches de tout le monde, vous voyez.
Alors
comment, où en sera l'exaspération, l'envie de changer à ce moment-là, les Français qui en auront ras-le-bol. Je veux dire, c'est tout peut se jouer là cette fois au premier tour. Alors, parce qu'il peut soit franchir et être devant, soit comme il l'a dit d'ailleurs aux jeunes de qu'il l'avait interviewé, vous savez, sur Brut. Il a dit peut-être que je ne pourrais pas me représenter. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il assaille comme problème, tout ce qu'il essaie de résoudre, la difficulté, parce que c'est quand même rarement un président a été confronté à de telles difficultés cumulées.
Alors, il joue gros, vous dites, Catherine Ney. Oui. Il aime prendre son risque, hein, c'est une expression qu'il affectionne particulièrement. Et il l'a pris, d'ailleurs, son risque, en décidant de ne pas reconfiner, malgré les avis des scientifiques, Charles Villeneuve. Et pour le moment, eh bien, les chiffres lui donnent raison.
Oui, c'est vrai, pour l'instant. Mais il y a quand même un grain de sable qui s'est introduit dans la machine. Et on le voit avec la Moselle, la région de la Moselle. Ce matin, Arnaud Fontanet, qui fait partie du conseil scientifique, éminent professeur, et qui est assez sage en général dans ses propos,
antenne.
Qui était sur Europe 1, oui, j'allais le dire.
À 8h15 dans la matinale de Pierre de Villeneuve,
voilà. Et lui a bien dit, de toute façon, il a très bien analysé le danger. Bon, ce danger, pour l'instant, ne s'est pas exprimé complètement avec les variants, puisque c'est une épidémie dans l'épidémie. C'est-à-dire que le virus classique, lui, a muté. Hein, dans d'autres pays, c'est le variant anglais, c'est le variant sud-africain, c'est le variant brésilien qui sont beaucoup plus contaminants. Mais pour l'instant, ça tient. Le système tient. Et donc, on peut arriver, si vous voulez, à un confinement territorial. Bon, la décision n'a pas été prise.
Mais ce qu'il faut saluer. Une fois encore par l'exécutif.
Voilà, mais ce qu'il faut saluer chez Macron, c'est qu'il a, en quelque sorte, rétabli la primauté du politique sur les propositions scientifiques. Car les scientifiques ne sont pas là pour imposer, ils sont là pour proposer.
Oui. Alors, pas de confinement à trancher le chef de l'État pour le moment, sauf que, tout peut arriver à tout moment, et c'est d'ailleurs ce qu'a répété sur notre antenne, sur Europe 1, Gabriel Attal.
Tout est possible, rien n'est exclu. Ce qu'il faut, c'est prendre les mesures qui sont les plus appropriées pour lutter contre la propagation de ces variants. Mais on ne peut pas, d'un côté, regretter parfois que les décisions soient prises sans concertation avec les élus. Et quand un ministre se déplace pour faire la concertation avec les élus et les autorités de santé, considérer qu'il faudrait que les mesures aient été déjà prises.
Mais on imagine que vous anticipez cela.
On regarde en permanence quelle est la situation. Et quand des mesures sont nécessaires, on les prend. Et s'il y a des mesures à prendre au niveau local, elles seront prises.
Le porte-parole du gouvernement avec Sonia Mabrouk cette semaine sur Europe 1. On pense bien sûr à la Moselle, vous y faisiez référence, Charles, il y a un instant. Plus de 300 cas de variants. On a vu
il y a déjà
Véran.
Eu la Mayenne, hein, on a, où il y a eu un traitement spécifique qui a très très bien marché.
Que là, Catherine, les élus locaux réclament le confinement local. Et Olivier Véran, hier, leur dit non.
Enfin, pour l'instant. Bah,
pour l'instant.
C'est pas un non définitif.
C'est pas un non définitif. Et encore une fois, si certains élus demandent, il n'est pas sûr que leur population le demande aussi, parce que c'est ça tout le problème. La santé, c'est pas seulement le virus. La santé, c'est la santé morale et physique et psychologique et économique du pays. Donc, quoi qu'il se passe, même s'ils devaient confiner demain la Moselle ou une partie de la France, quoi qu'il se passe, ça aura fait un mois d'économie en plus. Et peut-être qu'il faut, alors que les chiffres, peut-être qu'il faut s'en réjouir, alors que les chiffres restent pour le moment identiques. C'est 21 000 hier.
Plus de 20 000 cas en 24 heures, en effet, mais, avec 26 000 hospitalisations.
Mais il y a les variants, mais il y a les variables sur, les, sur lesquelles le président de la République juge de sa stratégie. Et il en tire, si vous voulez, des leçons. Et les variables, c'est ce que vient de dire Michel. C'est-à-dire, elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont morales et, bien sûr, psychologiques. C'est la raison pour laquelle il y a les élus locaux, très bien, qui sont les porte-parole de la population, mais il y a aussi la population entière. Et cette population-là, pour l'instant, elle préfère ne pas être reconfinée.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il espère pouvoir jouer la... Vous savez, c'est comme quand on a plongé et qu'on remonte par palier. Il espère que là, comme l'épidémie, la pandémie est à peu près contenue, pouvoir peu à peu remonter, lâcher des choses. Peut-être que dans 3 semaines, ça sera les musées, ça sera... Vous voyez, peu à peu, enfin, il espère. C'est sa stratégie. Alors, je ne sais pas s'il y arrivera. Mais de toute façon, c'est le politique, c'est lui seul qui aura à rendre des comptes. C'est lui qui a porté de baffe de l'opinion. Et donc, ce n'est pas au médecin de jouer sur l'opinion publique pour dire il faut faire ça ou ça.
Enfin, pour l'instant, on est dans le grand bleu. Hein.
Comment ? On est dans le grand bleu. Mais,
oui,
on a...
mais les médecins, pour le coup, accentuent le grand bleu. Oui. Parce qu'il y en a, ils parlent tous, ils continuent à tous parler. On entend un peu moins parler d'Elfrécy en ce moment, ce qui est quand même pas mal.
Parce qu'il s'est fait
mais
taper sur
les doigts. Ils parlent tous, oui. Ils font peur. Et quelque part, ils font très peur à la population. Et de l'autre côté... On entend, ah oui, mais peut-être qu'on peut confiner, mais on peut s'en sortir. C'est vrai que je ne sais pas ce que les gens ressentent en eux durant ce chiasme des positions.
Vous restez avec nous, les grandes voix, dans un instant. La ville de Trappes est-elle menacée par les islamistes ? La polémique enfle après la déclaration, les déclarations d'un prof de philo. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1, Sébastien Guyot.
Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou qui continue de débattre dans ce studio.
Non.
C'est
non.
Très
ah,
vivant.
Gérard Carrérou.
Pardon, excusez-moi Charles Villeneuve, Gérard Carrérou nous manque déjà, c'est pour ça.
On est dissemblables. Hein.
C'est vrai. On vous différencie bien. Emmanuel Macron, on en parlait un instant, et maintenant la ville de Trappes au cœur de la polémique. Au départ, c'est le cri d'alarme d'un professeur de philosophie dans un lycée de la ville.
Je vais être très très concret. À Trappes, par exemple, il n'y a plus de coiffeur mixte. Les femmes maghrébines ne peuvent plus entrer dans des cafés. Il s'exerce évidemment une pression très forte sur les femmes par le voile et les fillettes également. En 18 ans, en 20 ans à Trappes, j'ai vu une évolution fantastique de la société. Les juifs sont partis. Je suis arrivé en l'an 2000. La synagogue a brûlé. Les juifs sont partis, ensuite ça a été l'exode d'autres populations, et puis à présent, maintenant, ce sont les musulmans modérés, en fait, qui s'en vont, et les athées.
Cette déclaration de Didier Lemaire, ce prof de philo de Trappes, a fait polémique. Le préfet l'accuse de mettre de l'huile sur le feu avec des outrances. Didier Lemaire lui-même a reconnu, par exemple, Catherine, qu'il n'y avait pas, il y avait encore des coiffeurs mixtes dans la ville de Trappes.
Oui, enfin, il y en a 4 sur 20.
4, hein, absolument.
Alors, donc, faut... Donc, et puis, il n'est pas censé connaître toute la ville. Mais enfin, on a l'impression que ce professeur-là a fait une lettre pour défendre Paty et que tous les malheurs lui sont arrivés. Alors que ça fait des années qu'il combat et qu'il voit cette ville changer. Il a écrit, il a d'abord écrit avec Jean-Pierre Aubin, vous savez, l'expert qui avait écrit ce livre qui était « Comment l'islam a pénétré l'école ». C'était un rapport qu'il avait fait pour François Fillon.
Et qui sera sur Europe 1 la semaine prochaine.
Oui, et donc, et ça c'était en 2018, ils avaient déjà écrit à Emmanuel Macron. Il avait témoigné dans le livre de nos consoeurs, qui ont écrit, Ariane Chemin et Raphaël Baquet, qui ont écrit un livre formidable pour raconter comment peu à peu une ville peut changer, comment peu à peu l'islam s'installe. Et là, il avait témoigné pour dire qu'on était dans le déni et qu'on ne voulait pas voir les choses. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît sa ville. Et je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est que le maire actuel soit allé... dans l'école, porter un tract pour dire en gros que le prof dénigrait une ville et qui n'avait pas à le faire.
Ce qui a été dénoncé par l'éducation nationale, Charles Villeneuve.
Oui, oui, non, mais écoutez, c'est en 2016 que le procureur de la République des Yvelines a décrit exactement le glissement islamiste de Trappes. C'est un rapport qu'on devrait rendre public, qui a été adressé à la direction de l'action publique du ministère de la Justice, qui était, dont le ministre était M. Urvoas à l'époque. Rien n'a été fait. Au contraire, on a étouffé le rapport du procureur de la République. Alors le préfet, il devrait le relire, justement, ce rapport, et puis se rendre compte de ce qui s'est passé. De la même manière, on a déplacé le patron du renseignement territorial des Yvelines, qui avait fait venir 10 inspecteurs qui étaient formés, justement, à la lutte contre ce glissement islamiste. On l'a déplacé avant même l'affaire Samuel Paty. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont remplacé ont dit, 3 jours avant la décapitation de Samuel Paty, ils l'ont écrit dans leur rapport, le renseignement territorial, que c'était en voie d'apaisement. On sait ce qu'il est advenu du malheureux professeur d'histoire, Michel, de Conflans-Sainte-Honorine. Et donc, si vous voulez, d'ailleurs, le ministre Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a rectifié les propos durant le débat avec Marine Le Pen, du préfet, hein, qui a été conduit à revenir un tout petit peu sur sa déclaration précédente, notamment au journal Le Monde. C'est assez étonnant d'ailleurs que le préfet se soit exprimé de cette manière. Mais enfin, il n'empêche que Darmanin a donc décidé d'une protection rapprochée pour le professeur de philosophie. C'est donc qu'il y a bien des menaces de mort.
Alors qu'il n'y a pas reçu directement de menaces de mort.
Moi, j'étais sensible quand même.
Parle d'une menace plus diffuse, Michel Cotard.
Moi, j'étais sensible au fait que sur une histoire de ce genre, le préfet commence quelque part à en vouloir au professeur qui en fait trop, dit-il, qui en fait trop, qui s'expose à l'Observateur, qui s'expose aussi dans beaucoup de chaînes de télé, qui répond à toutes les questions. Alors, le préfet dit, il en fait trop. Et puis, le lendemain, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation reproche, à juste titre, à mon avis, au maire qui s'appelle Omer
Ali qui
appartient non mais qui appartient à la tendance S,
génération,
qu'on appelle
génération de Benoît Hamon.
Voilà, de Benoît Hamon. Bon, alors ce maire, il se permet d'entrer dans un lycée pour sous forme de lettres, mais qui en réalité est un tract, aller dire vous voyez comment on vous traite mal, vous voyez comme ce professeur vous traite mal. Franchement, là vraiment c'est trop. Donc il y a eu à la fois une espèce d'explosion. Mais qu'un maire se permette de faire ça...
Une récupération politique, vous dites, comme la récupération de Jordan Bardella qui va sur place aussi hier.
Oui, mais enfin, résultat, c'est les islamistes qui ont gagné. Puisque le professeur ne va plus enseigner sur place, il va même quitter l'enseignement, il va rester dans l'éducation nationale à un poste, d'ailleurs on ne sait pas lequel. Or, quand vous voyez ce professeur, moi, franchement, on a envie que les enfants aient un professeur comme lui, parce que c'est quelqu'un... Moi, j'ai trouvé qu'il avait une densité d'expression dans la modération. Et on sentait bien qu'il est d'une parfaite bonne foi. Vous savez, il dégageait beaucoup de bonté. Il était un peu comme Samuel Paty. Ce sont ces gens qui vraiment se dévouent complètement, aiment leurs élèves, aiment les éveiller. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être la tragédie, là.
Non, mais je rappelle que l'école est un sanctuaire dans lequel il est interdit d'y introduire l'activisme religieux et politique. Et je rappelle aussi que ce maire a vu son élection cassée par le tribunal administratif. Il a fait appel, c'est la raison pour laquelle il est en poste.
Alors, il y a aussi les sociologues qui rappellent que beaucoup de monde parle de Trappes, mais peu viennent sur le terrain et rappellent que c'est une minorité de salafistes dans la ville et que Trappes, c'est aussi une ville symbole de Jamel Debbouze, Nicolas Anelka, Omar Sy et des réussites et des talents.
C'est aussi une ville symbole qui a expédié en Syrie 50 djihadistes, dont 8 ou 9 ont été tués sur la frontière syro-irakienne.
Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ? Vous faisiez référence à ce livre de Jean-Pierre Aubin, Catherine Ney, tout à l'heure. Je vous disais qu'il serait un rapport
qui serait sur
Europe 1 la semaine prochaine. Je vous précise que ce sera mardi matin chez Sonia Mabrouk à 8h15. Un rendez-vous à ne pas rater. On marque une nouvelle pause, les grandes voix, et puis dans un instant, on parle du procès en destitution de Donald Trump avec ces images choc des démocrates. Est-ce que c'est un mauvais choix des démocrates? On va en parler.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Sébastien Guyot.
Dernière partie du débat des grandes voix consacrée au procès en destitution de Donald Trump et ces images choc diffusées par les démocrates au début du procès. On se remet dans l'ambiance. Des partisans de Trump qui sont à la recherche de Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre des représentants, ou encore ces cris de Trumpistes. Nous sommes à l'invitation de Donald Trump. Est-ce que ça fait froid dans le dos, Charles Villeneuve ? Est-ce que c'est productif de diffuser ce genre de vidéo ?
Bien sûr que c'est productif. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les démocrates se sont placés, si vous voulez, sur le plan justement de la télévision et notamment des grandes plateformes. Netflix, Amazon, etc. Ils ont produit une vidéo de 13 minutes qui est dévastatrice, même pour l'électorat républicain. C'est ce qu'ils visaient en essayant d'établir la responsabilité de l'incitation au désordre du président de la République. Et moi, je pense que ça laissera des traces, alors qu'il est toujours populaire dans l'électorat républicain, mais ça laissera des traces de son comportement, indéniablement. Même s'il est vraisemblable, on le saura peut-être ce soir, les démocrates ne pourront pas rallier les 17 sénateurs républicains qu'il leur faut pour prononcer la culpabilité, guilty or not guilty, coupable ou non coupable, de Donald Trump. C'est-à-dire pour le bannir en quelque sorte du champ politique américain. Il ne pourra plus se représenter s'il est déclaré coupable.
Vous évoquiez cette vidéo, ce montage de 10 minutes, Charles Villeneuve. Les Républicains ont rétorqué avec une vidéo de 10 minutes hier soir, justement, en faisant un peu le même montage, finalement, pour montrer que les démocrates utilisaient aussi un langage guerrier contre Trump. Vous allez payer, faites gaffe. Est-ce que, là encore, c'était la bonne réponse ?
Oui, on peut dire ça, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce qu'il faut enlever Donald Trump définitivement du futur américain ? Bon, ben ça, manifestement, ils n'y arriveront pas. Mais est-ce qu'il fallait quand même faire autour de cette invasion
du Capitole
un événement unique dans l'histoire américaine ? Alors, il n'est pas unique, on sait qu'il y a eu d'autres invasions du Capitole au siècle précédent. Mais il est vrai que c'est un traumatisme formidable pour l'Amérique, mais en même temps, le Parti démocrate ne doit pas rester trop longtemps là-dessus, parce qu'il a d'autres choses à faire, Biden. Donc il ne va pas tirer le procès pendant 15 jours, parce que pendant tout ce temps-là, ça l'empêche d'agir. Donc on est à la fois, il fallait montrer la culpabilité de Trump, et à la fois pas en faire trop.
Alors vous avez raison, Joe Biden, il était plutôt en retrait hein, jusqu'à présent, il ne se mêlait pas de ce procès. Et puis hier, il a déclaré qu'il était impatient de voir ce que ses amis républicains allaient décider pour voir quelles responsabilités ils allaient porter, Catherine Ney.
Oui, mais les démocrates ont renoncé à enquêter plus et faire venir des gens qui étaient parmi la horde sauvage et de leur faire dire, est-ce que, selon vous, c'était un ordre de Trump ? Ça, ils ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce que le procès dure. Parce que d'abord, le procès dure longtemps. Parce que les Républicains, on sent que ça va profondément les diviser. Justement, ces images portent aussi dans le camp républicain, parce qu'ils trouvent que c'est horrible, que ce n'est pas la démocratie. Mais comme le dit Michel, les démocrates veulent maintenant travailler, agir, voter des lois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jury, c'est 100 sénateurs qui sont à la fois victimes, s'ils sont juges et partis, parce qu'ils ont été agressés eux-mêmes, ils ont eu peur. Donc leur jugement, vous voyez, je trouve que c'est la première fois qu'un jury est à ce point concerné par l'affaire.
Procès injuste, disent les Républicains, Charles Villeneuve. Procès qui ne sert à rien finalement, qui est contre-productif.
Moi, je ne crois pas. Non. Je crois qu'ils ont voulu, si vous voulez, la vidéo, les 13 minutes de la vidéo des démocrates, c'est de laisser l'image d'un pyromane de Donald Trump. C'est tout ce qu'ils veulent. Parce que, bien évidemment, ce procès est encombrant. Plus il dure et plus il est encombrant pour Joe Biden. D'abord parce que tous ses ministres n'ont pas été encore adoubés par les commissions, notamment la commission des lois du Sénat. Et deuxièmement, il a besoin justement que Donald Trump ne tienne pas trop la vedette malgré ce procès, évidemment, qui est inquisitorial pour lui. Mais il n'empêche que, évidemment, il occupe les télés aujourd'hui. Et ça, Biden n'en a pas besoin parce qu'il faut qu'il travaille. Il faut qu'il finisse d'ailleurs son ministère, la composition de son ministère, et puis qu'il passe vraiment aux travaux pratiques.
Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'après cette manifestation énorme, on s'est dit tous, oh là là, il va y avoir quand même presque une guerre civile en Amérique. Et bien finalement, moi ce qui me surprend, c'est qu'il y a ce procès, effectivement, qui est la cristallisation, mais qu'à la fois, dans le pays, jusqu'à présent, et il faudrait que ça continue, il n'y a pas eu les affrontements partout entre républicains et démocrates qu'on aurait pu craindre.
Avec cette grande question de Joe Biden, peut-il réconcilier deux Amériques totalement divisées, Catherine Ness?
Ça, grande question. Il faut mettre un frein à la fureur des flots. Ça dépendra de ce qu'il va proposer, comment il va. Ça, je peux pas vous. C'est son intention, mais est-ce qu'il peut réussir?
Pour le moment, il n'a pas fait d'erreur.
Voilà.
Charles Villeneuve.
Moi, je crois qu'il continuera, en tout cas, la politique de Trump, notamment à l'égard de la Chine.
On en reparlera dans un autre débat, les grandes voix. Merci à vous pour cette heure de débat. Merci également à Jean-Luc Armblad à la réalisation et à Capucine Patouillet qui m'aide précieusement à la préparation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur europe1.fr en podcast. Tout de suite, la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Bonjour Laurent, quel est le programme du jour? Faites-nous saliver.
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix. Alors ça ne vous a pas échappé, il fait froid dehors. Nous allons déclencher notre plan grand froid ce samedi matin dans l'émission. On va déclarer notre amour du gras. Le vrai, le bon, le beurre avec Yves Candebord.
Le gras c'est gras.
Et l'huile d'olive avec Olivier Pouls. Oui, le gras c'est la vie. Et nous recevrons Sophie Davant. Voilà, à tout de suite.
À tout de suite.